Matinale spéciale en direct de New York. Sur France Inter.
Patrick Cohen, dernier rendez-vous avec vous dans ce 7-9 en direct de New York. À vos côtés, un homme de la finance et un homme qui connaît bien les finances de Donald Trump.
Oui, c'est vrai, il connaît aussi les relations d'affaires que Donald Trump s'apprête à nommer dans son gouvernement. Vous savez, il y a des noms qui apparaissent désormais dans la presse. Il a été le vice-président de la Bourse de New York, PDG aujourd'hui de Galileo Global Advisors. Bonjour Georges Hugeux.
Bonjour.
Vous êtes belge d'origine, vous venez d'acquérir la nationalité américaine. Vous avez voté avant-hier ?
J'ai voté avant-hier, j'ai la nationalité depuis 5 ans maintenant. Et c'était extraordinaire de voter pour Obama.
Et cette fois-ci ?
Cette fois-ci, on y est allé par devoir, avec les pieds lourds, en sachant qu'il y avait des risques et en sachant surtout que il y avait une certaine méfiance qui s'était établie au cours de la campagne électorale vis-à-vis d'Hillary Clinton. Mais d'un autre côté, vu ce que disait et semblait faire Trump, il n'y avait absolument pas de choix. Et donc on a voté pour Hillary Clinton, comme beaucoup de démocrates, en se disant qu'il allait falloir la regarder de très très près, parce que quand même, il s'était passé beaucoup de choses.
Qu'est-ce qui clochait chez Hillary Clinton ? Je vous ai entendu parler dans une interview récente de Clinton Incorporated. Pourquoi cette expression ?
Elle vient de plusieurs choses, mais je vais vous donner simplement un exemple. La fondation Clinton touchait des dizaines de millions de dollars de certains États pas très reluisants. Et son rôle était d'assurer que ces États puissent avoir accès au département d'État, de rencontrer Hillary. Donc, si vous voulez, la main gauche gagnait de l'argent sur le boulot de la main droite. Et c'est ce qu'on a appelé Clinton Inc. Parce que quand on a regardé leur déclaration fiscale, depuis qu'il a quitté la présidence, ils ont fait ensemble 100 millions de dollars. C'est quand même pas des petits montants. Or, une grosse partie de l'argent est allée dans des œuvres charitables. Ça, c'est ce qu'ils ont, eux, encaissé dans leur déclaration fiscale. Donc il y a un sentiment profond que tant Hillary Clinton que son mari, et ils vont vivre ensemble à la Maison Blanche, emmènent avec eux quelque chose dans lequel on n'a pas confiance.
Et c'est un homme de la finance qui parle là par votre voix, Georges Hugeux. Hein,
absolument, et je l'ai vécu dans des cas extrêmement concrets où des votes ont eu lieu à l'Assemblée générale des Nations Unies et d'autres décisions ont été prises, et dont il est absolument clair que la connexion remonte à la Fondation.
Vous donnez raison, en quelque sorte, à certaines accusations proférées par le camp Trump pendant la campagne. Hein.
Il est exact que cet élément-là, qui était l'élément le plus faible, a été exploité par la campagne Trump. Et c'est cet élément-là, ce fait que on est toujours un petit peu en marge, qui fait que graduellement, y compris dans les affaires des courriels, etc., même les démocrates ont commencé à se dire « elle n'est pas nette ».
Alors maintenant, l'élection de Trump, l'accession de ce milliardaire populiste, on parlait d'argent, il est milliardaire Donald Trump, à la Maison Blanche. Vous parlez dans votre blog ce matin, Georges Hugeux, Démystifier la finance, de l'effondrement de l'idéal américain. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que nous nous trouvons devant toute une série de valeurs depuis de très nombreuses années, qui les unes après les autres ont été abandonnées. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas directement lié à la campagne. Abu Ghraib, la prison en Irak, la manière dont l'administration Bush a essayé de trouver des arguments juridiques pour ne pas appliquer la Convention de Genève, le refus de faire partie du processus de l'AE, toute une série de choses qui font que l'on a graduellement vu au plus haut niveau de l'État apparaître des individus et des personnes qui n'avaient par rapport à ces valeurs américaines plus rien à voir.
Alors comment imaginez-vous, Georges Hugeux, maintenant ce que pourrait être une présidence Trump ? Quels hommes, quelle politique ? Et pour ce qui vous concerne, enfin pour ce qui est votre spécialité, quelle politique économique ?
Il n'y a pas de politique économique qui ait été vraiment articulé ni par les démocrates, ni par les républicains, ni par les deux candidats. Par contre, il y a des tendances qui me paraissent lourdes. La première tendance lourde qui est très claire, c'est qu'on va avoir une régression sur les problèmes de la place de la femme. On parle déjà d'une tentative, avec un nouveau juge à la Cour suprême, de remettre en question le droit à l'avortement. Il y a un deuxième domaine qui est relativement clair et qui est très important pour la France et pour les pays européens, c'est le refus de ce que j'appellerais le multilatéralisme en économie. Donc, ce sera le refus du TAFLA. Je ne sais pas si on va finalement approuver l'Iran.
Traité de libre-échange.
Le traité de libre-échange, oui,
avec,
européen.
Avec l'Europe, voilà, que nous on appelle le TAFTA, de l'autre côté de l'Atlantique. Oui.
Et
l'Iran, l'accord qui pourrait être remis en cause. Oui.
Et même l'accord sur le Pacifique n'est pas garanti. Et on a entendu Monsieur Trump encore dire il y a deux jours que ce traité était un scandale parce qu'il nous livrait pieds et poings liés aux Chinois. Il y a simplement un détail. Et toute la campagne de Trump a été ça. Les Chinois ne sont pas signataires de ce contrat. Ils ont toujours été exclus de ces discussions. Donc on est dans une situation où on fabrique. Ça a l'air tellement vraisemblable que la population est prête à avaler à peu près n'importe quoi.
Oui, mais Trump, lui, va devoir être ramené à des principes de réalité qui s'imposeront à lui d'une façon ou d'une autre.
Alors c'est là qu'on va se trouver effectivement avec un facteur qu'on va devoir regarder de très très près. C'est que le programme qu'il a donné sur les infrastructures et puis la diminution des impôts, etc., ferait passer la dette américaine de 20 à 25 000 milliards de dollars. C'est insoutenable. Ce sera au-delà de 100% du produit national brut. L'idée que les gens vont gagner deux fois l'argent, l'idée qu'on va avoir une croissance double, etc.
De 4 à 5%, a-t-il dit dans son premier discours, ça vous paraît complètement irréaliste ?
Complètement irréaliste. Mais le problème, pour ça que je reviens à ce problème de la dette, c'est un problème que l'on sent en France, que l'on sent en Italie et que l'on sent ailleurs. L'Occident, dans un certain nombre de pays, n'a plus les moyens de ces politiques grandioses. Et donc, quand vous parlez du retour à la réalité, à mon avis, le premier retour à la réalité, ça va être de découvrir qu'il n'a peut-être pas les moyens d'action qu'il croit pouvoir déployer pour réaliser sa politique.
La presse américaine commence à citer des noms pour son équipe parce qu'il était très peu entouré, évidemment, pour quelqu'un qui n'a jamais eu de mandat électif, qui n'a jamais fréquenté Washington. Il est assez seul sur la scène politique. Donald Trump, on parle d'un secrétaire au Trésor qui pourrait être un vétéran de Goldman Sachs. Il y a passé 14 ans, Steven Mnuchin, vous le connaissez, Georges Jugeux ?
Oui, je l'ai rencontré quand il travaillait chez Goldman Sachs. Je ne l'ai pas rencontré depuis qu'il travaille pour Trump. C'est quand même extraordinaire. Il a passé toute la campagne à blâmer Hillary Clinton parce qu'elle faisait des discours pour Goldman Sachs, tout en utilisant pour le financement de sa campagne quelqu'un de Goldman Sachs. Et moi, ce que je crains, voyez-vous, c'est que comme l'homme est imprévisible, comme c'est un narcissique grave, il va avoir une énorme satisfaction tout au début, des honneurs, etc. Mais il va jamais s'en contenter. Ce genre de personnage cherche toujours plus. Et ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, on arrive à des extrémités. Et donc, par rapport même à la politique économique, il n'est pas du tout probable que ce sera une politique économique raisonnable et conservatrice.
C'est un anti-système Trump qui a grandi dans le système, qui en a profité.
Qui en a surtout profité. Il a grandi dans le système, il a hérité du système. J'ajouterai une chose, on dit que c'est un milliardaire. Il n'a jamais parlé que d'un chiffre, c'est le chiffre des actifs dont il dispose. Il n'a jamais parlé de la dette qui est derrière. Je crois qu'il vaut moins d'un milliard.
C'est-à-dire que ses actifs moins la dette de sa compagnie de Trump
serait en dessous d'un milliard et substantiellement en dessous d'un milliard. Les estimations de ceux que j'ai rencontrés avec qui on en a parlé, c'est entre 250 et 500 millions. Donc c'est pas du tout ce dont on a parlé.
Donc c'est pas une grande réussite.
Écoutez, quatre faillites qui ont fait payer les banques et toute une série d'actionnaires, ce n'est pas la meilleure référence aujourd'hui.
Merci Georges Jugeux d'être venu au micro de France Inter.
Avec grand plaisir.
Et merci à vous Patrick, merci également à toute l'équipe qui a rendu possible ces émissions spéciales depuis avant-hier.
Oui, une équipe exceptionnelle pour vous faire vivre ce moment exceptionnel, cette semaine exceptionnelle en coulisses de ces trois éditions spéciales ici au Novotel Times Square de New York. Il y avait Thomas Robin, Benoît Chapon, Jean-François Daguin, Pascal Westrelin pour la technique et puis Alain Fauché et Pascal Bresse pour la production, qu'ils soient ici vivement remerciés.
On vous laisse aller vous coucher, Patrick, c'est l'heure,
oh oui.
Non ?
Oui, hein. Oh là là, bonne nuit. Oh là là, presque 3 heures du matin.
Revenez-nous en pleine forme, évidemment, dans un peu plus d'une minute, le billet de Frédéric Becbédé sur Inter.